Appel en cours.
RFI. Grand reportage.
Bonjour.
Ça va ?
Oui, et vous ?
Bah, oui,
tout au long du mois, une grande campagne de communication, Octobre Rose, est lancée en France pour sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein. Pendant la maladie, elles sont accompagnées, très entourées par le milieu médical. Mais une fois les traitements terminés, elles se retrouvent souvent seules. À Amiens, dans le nord de la France, une structure privée, le centre Estime, s'est spécialisée dans l'après-cancer. Se reconstruire après le cancer du sein, c'est un grand reportage de Lise Verbeek.
Allez-y, je vous en prie.
Et donc là, nous avons aussi la cuisine, qui est le cœur du centre. En fait.
Le centre Estime ne ressemble en rien à un hôpital, mais plutôt à une grande maison. L'endroit est décoré dans des tons clairs, ambiance zen. Les canapés sont confortables et les plantes vertes disséminées un peu partout. Ici, les estimeuses, comme elles se surnomment, suivent un programme de 4 mois de soins de support. Ce sont des soins qui permettent d'améliorer la qualité de vie, de retrouver un bien-être après la maladie, et ce à tout point de vue, physique et psychologique, comme du sport adapté, des ateliers pour apprendre à manger équilibré, des suivis avec un psychologue ou encore des ateliers pour apprendre à se réapproprier son corps meurtri et mutilé après le cancer.
Alors, on y va ?
Alors ici, nous sommes donc dans le bureau de Marie Fleur, qui est notre psychologue. Donc ici, nous sommes dans la salle de réflexologie.
Annabelle Chauchnaki, la cofondatrice du centre.
Lorsqu'on a eu un an de traitement, où on a été cadré, où on a été heureux d'avoir encore un soutien dans l'après. Parce que finalement, à la fin du traitement, on se retrouve du jour au lendemain, sans rendez-vous, et si, le seul, dans 3 mois avec son médecin. Et là, se pose un problème pour certaines personnes, la majorité, certaines non, mais la majorité se disent « mais qu'est-ce que je vais faire ?» et moi, mon cancer, d'accord, je suis guérie, mais... Mais non, j'ai encore plein de choses qui ne vont pas. Donc c'est vrai qu'il y a forcément les conséquences d'un traitement qui physiquement et psychologiquement sont difficiles. Et puis les aidants, qu'on oublie toujours, les aidants qui en fait se disent « c'est super, tu as eu ta dernière séance de radiothérapie, c'est terminé, on retrouve une vie normale ». Et malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Donc nous, justement, on est là pour accueillir les personnes. C'est vraiment une dynamique. Un programme. On se dit qu'on a 4 mois pour penser à soi, se reconstruire et se dire voilà, je vais reprendre le travail et me servir de cette année de combat pour me dire voilà, je suis devenue un combattant, je suis beaucoup plus forte et je vais pouvoir assumer ma nouvelle vie.
Natacha ne se voyait pas reprendre ses cours de maths devant les élèves après 9 mois de traitement. Alors elle a décidé de pousser la porte du centre.
J'ai fini mes rayons, je crois il était midi, et à 13h j'étais ici pour visiter le centre et voir comment on allait pouvoir faire l'après, quoi, finalement, une période de transition avant la reprise du travail.
Justement, c'est ça qui est peut-être un peu compliqué. Pendant plusieurs mois, vous êtes très encadrée par le corps médical, etc. Et pendant ce temps-là, on n'a pas le temps de penser justement à l'après. Une fois qu'on y est, comment on sent ?
On a l'impression d'un seul coup d'un grand vide, de ne pas savoir. On est un peu perdu, on ne se voit pas reprendre le travail immédiatement. Alors, parce que on a bien conscience qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans notre vie, mais on n'en a pas finalement pris totalement la plénitude ou la mesure, quoi. Et... le fait de venir ici, de rencontrer d'autres personnes, de les entendre parler de leur propre vécu, ça permet de réaliser en fait. Moi, j'étais un peu dans le déni en disant j'ai toujours fait pendant tout le long de ma maladie comme si j'avais rien, essayer de continuer au quotidien, etc. Et quand j'étais ici, je pouvais pas nier qu'il s'était passé quelque chose, et d'entendre les autres parler, c'était des fois entendre ma petite voix intérieure qui parlait, quoi, et ça m'a fait beaucoup de bien.
Comme Natacha, les femmes qui s'inscrivent au programme suivent des ateliers de sophrologie, de yoga, de pilates. Elles ont des rendez-vous réguliers avec la psychologue et elles peuvent consulter une sexologue. Il y a aussi des ateliers d'esthétique. Et ces soins d'après-cancer sont essentiels.
Je m'appelle Michel Gauzy, je suis oncologue radiothérapeute à Amiens. J'exerce au sein des cliniques privées, du pôle des cliniques privées, depuis maintenant pratiquement 10 ans.
Le médecin est le cofondateur du centre.
On a montré qu'il y avait des effets bénéfiques à s'occuper de l'après-cancer avec une prise en charge ou une aide. Et on pouvait diminuer dans certains sous-groupes de patients jusqu'à 30% le risque de rechute de la maladie. Et puis on peut diminuer de façon significative la consommation de médicaments et surtout on peut réinduire des comportements alimentaires, physiques, qui diminuent les risques d'une façon générale. On pense aujourd'hui que 4 cancers sur 10 peuvent être évités par une prévention de règles hygiéno-diététiques. Donc c'est important de s'occuper de l'après-cancer.
Allez, petite pause boisson, on se réhydrate.
Réparer les corps, c'est l'une des étapes essentielles de l'après-cancer. Peggy est éducatrice. À 46 ans, elle a été opérée 3 fois l'été dernier. Et elle est rentrée dans le centre il y a 1 mois.
Je suis très fatiguée. Mais être dans mon canapé, au bout d'un moment, ça me gonfle. Et je n'ai pas assez de force pour aller faire des choses toute seule, sans but en fait. Et du coup, estime, ça tombe bien parce que là, on a un planning. Ce n'est pas tous les jours non plus. Donc on y va à notre rythme. On sait qu'on se garde 2 demi-journées par semaine. Et puis, ça fait du bien. Alors que d'être à la maison, on est coupé quand même. Et puis on ne peut pas parler tout le temps de ce qu'on a. Alors qu'ici, des fois c'est un peu trop de parler que de ça, mais je pense qu'au début, là on vient de commencer, c'est normal qu'on explique un peu au groupe un peu ce qu'on vit, en fait, ce qu'on a vécu pour se connaître un petit peu. Et toutes les histoires sont complètement différentes de toute façon.
Comment vous voyez votre corps aujourd'hui ?
Pour l'instant, il me fait mal en fait, parce que le fait qu'il manque un muscle, puisqu'ils m'ont fait un grand dorsal pour la reconstruction, donc moi je ne me suis pas vue sans sein par contre. Parce que j'ai eu la chance que le sein n'était pas abîmé, donc il m'a pu me reconstruire le même jour qu'il a fait l'ablation. Comme il manque un muscle, le corps il faut compenser, donc j'ai mal au cou, j'ai mal aux hanches, c'est tout ça qu'il faut. C'est pas l'opération par elle-même qui était le plus difficile en fait, c'est les conséquences maintenant de se dire il va avoir mal un petit peu tant que ça se remuscle, etc. C'est que c'est pas fini parce qu'on a été opéré, quoi.
Dans ta jambe droite. Voilà. Tout en douceur, sans trop étirer. On sent l'étirement, on ne va pas jusqu'à la douleur. Soufflez bien.
Moi, je m'appelle Aude Mondoué et donc je suis professeure en activité physique adaptée, donc au sein du centre Estime.
Qu'est-ce qu'elles vous disent les femmes, parce que c'est une majorité de femmes, quand à l'issue du cours, est-ce qu'elles se sentent mieux, est-ce qu'elles se réapproprient petit à petit leur corps?
Alors effectivement, en termes de réappropriation de son corps, c'est très important. Beaucoup aussi se sous-estiment physiquement. C'est aussi compliqué de savoir quoi faire et savoir quoi éviter aussi, parce que y a des mouvements aussi qui sont à éviter. Il y a donc beaucoup d'appréhension. Reprendre du sport de soi-même après les traitements, c'est toujours compliqué. C'est pour ça qu'on est vraiment là en accompagnement pour leur montrer justement quels mouvements sont bénéfiques pour elles. Et après une séance, on s'en sent toujours mieux, même si on sent forcément un peu la fatigue, mais musculairement parlant, sur le lâcher prise, sur la libération des endorphines, on libère quand même des hormones du bien-être aussi, et les personnes au bout d'un certain temps en redemandent aussi, et on devient un petit peu accro.
Soigner le corps meurtri, mais aussi se reconstruire psychiquement. Dans le programme du Centre Estime de 4 mois, la consultation avec la psychologue Marie-Fleur Manigaud est obligatoire au moins une fois. Puis les femmes viennent la voir selon leurs besoins.
C'est dans l'après-cancer que tout commence justement sur le plan psychologique. Avant la fin des traitements, la personne qui est atteinte de pathologie cancéreuse est protégée par ses défenses, ses mécanismes de défense, qui ne lui permettent pas d'accéder à des contenus psychologiques et des contenus psychiques, à ses émotions tout simplement. Il y a une forme de gel émotionnel qui s'opère au moment de l'annonce de la maladie. Ce qui se gèle, ce qui se verrouille, c'est toute la sphère cognitive. Donc la sphère cognitive qui touche aussi bien les fonctions de parler, réfléchir, penser, se souvenir, mais aussi une partie des émotions, puisque pour pouvoir ressentir des émotions, on peut les ressentir sans mettre mettre de mots dessus, c'est le problème d'ailleurs, quand c'est gelé, il y a impossibilité de mettre des mots sur les émotions. Et au moment du dégel, tout refait surface. Donc c'est là vraiment l'intérêt du psychologue, encore plus dans le parcours.
Bonjour, tu vas bien ?
Ça va et toi ?
Ouais.
Je me mets où ? Là-bas ?
C'est après
vous.
C'est qu'à
10h. Ah, c'est après, à 10h, j'en avance.
Dans la structure où collaborent une quinzaine de professionnels, Priscilla et Constance, elles, travaillent l'estime de soi.
Ça va.
Ce matin-là, les socio-esthéticiennes, des esthéticiennes formées spécialement aux soins après cancer, apprennent aux femmes à fabriquer un baume à lèvres uniquement avec des produits naturels. Il y a aussi l'atelier maquillage, les soins pour le corps ou comment réapprivoiser sa féminité.
En fait, on utilise le soin esthétique pour une approche globale du patient, pour l'aider à se revaloriser par l'image de soi. Lors d'un traitement de chimiothérapie, le corps est extrêmement malmené. En fait, tout au niveau de la féminité est perturbé. Les dames perdent leurs cheveux, perdent leurs cils, leurs sourcils. Elles ont des problèmes au niveau des ongles, la peau change, le teint change. Donc du coup, c'est un chamboulement le temps d'une année de traitement. Et en fait, on est vraiment là pour les aider à gérer leur féminité autrement, leur montrer qu'on peut être jolie, forcément, pas forcément avec des cheveux, et on peut utiliser des accessoires ou autres, ou se maquiller un petit peu plus, ou voilà, essayer de jouer autrement.
Les massages aussi que vous faites, qu'est-ce que ça leur apporte ?
Du bien-être, de la détente, et puis après peut-être aussi au niveau du corps, c'est peut-être pas toujours évident. C'est vrai qu'elles, des fois, elles ont été opérées ou autre, donc se mettre à nu, et puis bah rien que le fait de nous, on est quand même dans le milieu médical, c'est pas forcément évident d'aller voir une simple esthéticienne qui aura pas la même approche que nous.
Il est en effet difficile pour les femmes qui ont eu un cancer du sein de se rendre dans un institut lambda. À demi-mot et avec pudeur, certaines d'entre elles racontent hors micro qu'elles se sont vues refuser un massage sous prétexte qu'elles n'ont plus qu'un seul sein ou une cicatrice dans le dos. Le regard des autres et la gêne dans leurs yeux rajoutent à la difficulté de se reconstruire après la maladie. Martine a 63 ans et elle a vaincu 3 cancers.
Vous êtes seule, même si vous êtes en couple ou en famille, parce que vous ne voulez pas trop en parler aux gens qui sont à côté de vous, parce que vous savez que pendant un an, ces gens-là ont stressé autant, voire plus que vous à cause des traitements. Ils vous ont vu malade, ils vous ont vu diminuer, ils vous voient encore. Donc, toutes les petits soucis qu'on a en plus, les petites idées noires, tout ça, vous les gardez parce que vous voulez pas empoisonner les gens qui sont autour de vous.
Est-ce qu'il y a des gens qui se sont détournés de vous quand vous êtes tombée malade et après ?
Malheureusement, oui, ça arrive. ça, c'est quelque chose, oui. Les gens ont peur. Je sais pas, ils pensent que c'est contagieux, j'en sais rien. Ou alors ont peur qu'on leur demande trop, peut-être, qu'on les sollicite parce qu'on est fatigué, parce qu'on n'est pas bien. Les gens ont peur de vous voir diminuer. Les gens ont peur. Oui, il y a bien sûr, il y a des gens. Bien sûr, il y a des gens qui se tournent de vous. Et il y a aussi des couples qui éclatent. C'est mon cas qui, suite à la maladie, ça se termine parce que ça a été trop dur, parce que j'ai jamais eu l'explication, mais je suis pas la seule, hein, dans le centre, nous sommes beaucoup de femmes qui nous sommes retrouvées seules suite à la maladie.
Un couple sur 3 se séparerait après un cancer du sein. Mais sans aller jusqu'au divorce, la maladie chamboule le couple. Justine Orion est sexologue. Elle a mis en place des apéros sexos dans le centre pour permettre aux femmes de s'exprimer librement.
Il y en a qui viennent spontanément. Maintenant, il y a encore une réticence à venir voir une sexologue. Il y a beaucoup de personnes qui disent « Mais quel intérêt dans un centre post-cancer de venir voir une sexologue ?» Et pourtant, les personnes qui viennent me disent « Merci, ça fait énormément plaisir. Il y a plein de petits mots. » Alors tout est caché, tout est en sous-marin, mais on se sent utile.
Qu'est-ce qui change dans les rapports homme-femme quand la femme a été malade ?
Alors, il y a beaucoup de choses qui changent, mais si je devais vous donner un exemple par rapport à ce qui s'est passé hier à un apéro sexo que j'ai organisé, c'est que parfois, alors hier, quatre femmes m'ont dit « Mais mon mari est très prévenant, il me voit comme une petite chose fragile. Il m'apporte le café au lit, il me dorlote, il est au-devant de chaque attente de la femme. » Sauf que dans la sexualité, on est dans la pulsion animale, on est des animaux, quoi qu'on en dise. On a besoin d'agressivité, le rapport sexuel est agressif. Et ces femmes, après le cancer, ont aussi besoin de retrouver cette féminité, n'ont plus envie d'être vues comme quelque chose de fragile et de malade, ont envie de repartir sur une libido vraiment homme-femme. Le couple est oublié, on est infantilisé. Donc c'est là l'intérêt de la sexologie et de la prise en charge, c'est de remettre du sens dans le couple qui a été oublié.
Il y a aussi ce corps, vous disiez, qui a changé. Comment on apprend à réappréhender justement ce corps et à le montrer à nouveau?
Alors c'est en ça que le travail aussi avec la psychologue Marie-Fleur est hyper important. Travailler l'estime de soi. Parfois c'est des femmes qui déjà à la base ont un problème avec leur corps. On a aussi ce culte de la femme parfaite, hein, qui malgré tout dans les médias est tout le temps là. Alors du coup, on reprend des bases de se réapproprier son corps seul déjà, d'arriver à s'accepter seul. Moi, il y a des femmes qui me disent « Mais comment me montrer? Je n'arrive même pas à passer devant un miroir. Je me supporte plus. » Donc mon but, c'est de repartir dans de l'érotisme, dans des jeux, dans sublimer un corps qui a été meurtri, sublimer une ambiance, repartir sur de l'adolescence, c'est vraiment ça, parce que on repart sur quelque chose de doux, les premiers rapports sexuels, les premières amours, ça se passe dans un climat feutré, dans une attention, dans une sensualité. Mon boulot, c'est de dire, on peut avoir 30 ans, parler des factures le soir, à un moment donné, le cancer est là. Tout est parti en live dans la vie des gens et stop, on repart aux prémices de la sexualité. Donc c'est ça que j'essaie de vendre, c'est d'expliquer aux gens. On resublime un corps. Alors il y a les techniques, il y a la socio-esthétique, c'est en ça que l'équipe est importante, c'est que chacun a son rôle. Moi je ne peux pas travailler toute seule, j'ai besoin de cette équipe justement.
L'équipe d'Estime devrait d'ailleurs bientôt s'étoffer avec l'arrivée d'un avocat pour conseiller les femmes dans l'après, celles qui veulent changer de travail ou encore dans les démarches de la vie quotidienne. Martine a notamment affronté toute une série d'embûches après ses cancers.
Les autres difficultés sont les difficultés au niveau, je dirais, financier. Vous n'avez plus le droit au prêt. Ou alors si, vous avez le droit au prêt, mais avec des assurances qui dépassent tout entendement. J'ai dû rechercher un logement, c'est la galère pour trouver un logement parce que vous êtes en invalidité, vous êtes malade, donc on ne vous fait pas confiance. J'ai galéré pendant 5-6 mois à trouver un logement parce que les agences ne veulent pas. Dès que vous le marquez invalidité sur un papier, c'est terminé. Ça, c'est principalement le problème que j'ai rencontré après la maladie.
Est-ce que vous pensez que le fait d'avoir un cancer, encore aujourd'hui dans notre société, c'est tabou?
Ouais. J'ai mis quelques secondes, mais oui, je pense que c'est encore... Je pense que cette maladie fait encore peur à tous les niveaux. À tous les niveaux, elle fait peur au niveau relationnel, elle fait peur au niveau professionnel et elle fait peur au niveau tout ce qui est financier, tout ça. Oui, je crois que c'est encore quelque chose qui est tabou dans l'esprit des gens. Vous avez un cancer, votre espérance de vie est réduite à quelques mois ou années, donc on ne peut plus vous faire confiance, entre guillemets. On ne peut plus faire confiance en la vie qui vous est attribuée. Moi, je pense que c'est encore quelque chose... je pense qu'il y a encore beaucoup de travail pour démystifier la maladie. Et justement, je pense que des centres comme Estime, c'est un peu notre challenge, nous, hein, c'est de faire voir qu'on est toutes là, qu'on est toutes battantes, qu'on est toutes... Il y a des personnes qui sont malades depuis plus de 20 ans, comme moi, et on est là, et on a le droit de vivre. Enfin, normalement, on a le droit de vivre comme tout le monde, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais oui, je pense que c'est encore un gros problème dans notre société. Un gros problème.
Depuis l'existence du centre en 2016, chaque Octobre Rose est l'occasion de briser ce tabou et d'ouvrir les portes à l'extérieur, mais aussi de faire appel à la générosité car il ne fonctionne qu'à partir de dons privés. Chaque programme de 4 mois coûte entre 1500 et 2000 euros. Les femmes, qu'elles viennent de l'hôpital ou de la clinique, peuvent y accéder entièrement gratuitement.
Se reconstruire après le cancer du sein, un grand reportage de Lise Verbeck, réalisation Pierre Chaffanjon, un magazine à retrouver sur le site de RFI.